France Culture.
Esprit de justice qui va parler ce soir des crimes qui se déroulent dans une région peut-être un peu oubliée du monde, en revenant sur une juridiction, le tribunal ouïghour. À l'heure où l'incrimination de génocide revient au cœur du débat public, il y a une région du monde, comme je le disais, dont on parle peu ou pas, c'est celle, alors en chinois, du Xinjiang, ou plus exactement de la région ouïghour. Et on ne parle pas du traitement par les autorités chinoises des populations ouïghours et des autres minorités musulmanes qui y vivent. En effet, aucune juridiction internationale n'a pu se prononcer sur cette qualification. Et on comprend bien les raisons, vu la puissance croissante de la Chine. Mais, par une décision du 9 décembre 2021, un tribunal a démontré que les politiques menées par la République populaire de Chine dans cette région contre les populations ouïghours et les autres minorités musulmanes relevaient bien d'un génocide au regard de l'article 2D de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce tribunal a visé, en autre chose, les mesures visant à entraver les naissances, de nature, selon lui, à entraîner une destruction partielle mais substantielle du groupe en tant que tel. Mais quelle était cette juridiction ? Un tribunal d'opinion, un tribunal citoyen composé d'un jury de 8 membres dont l'idée avait été lancée par une ONG et qui était présidée par un grand juriste anglais, Jeffrey Nice, un barrister, un avocat, qui avait soutenu l'accusation dans le procès contre Milosevic. Jeffrey Nice était assisté d'un autre grand juriste, Hamid Sabi. Alors, bien sûr, la décision de ce tribunal n'a aucune valeur juridique contraignante, puisqu'il ne s'agissait pas d'une juridiction officielle. Et bien que ça leur fût proposé, les autorités chinoises n'ont pas voulu défendre leur point de vue. Donc, cette juridiction n'était pas contradictoire. Néanmoins, ce tribunal citoyen fit un véritable travail de justice en observant une procédure très proche des juridictions internationales et surtout, on y reviendra, en entendant publiquement un certain nombre de témoins et d'experts. Alors bien sûr, son objectif n'était pas de prononcer des condamnations, mais de réunir des preuves et ainsi de produire des connaissances, de porter à la connaissance du public et de sensibiliser l'opinion internationale sur les crimes qui se déroulent dans cette région. Et on va s'interroger ce soir, savoir si ces objectifs ont bien été atteints. C'est pour ça que Esprit de Justice va revenir en détail sur son activité, ce tribunal un peu particulier, en compagnie de Chloé Drieux. Chloé Drieux est historienne de l'Asie centrale, chargée de recherche au CNRS, au sein du CESPRA, Centre de savoir sur le politique, recherche et analyse. Et après s'être intéressée au premier stalinisme en Ouzbékistan, un peu dans la région, pas très loin du moins, elle a travaillé sur la Première Guerre mondiale et sur ses conséquences dans la région. Et elle s'est mise, elle va nous expliquer pourquoi, à travailler sur le tribunal ouïghour.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Chloé Drieux.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors expliquez-nous comment, alors vous êtes une chercheuse confirmée, historienne, vous avez travaillé sur le cinéma notamment, mais comment vous êtes passé de l'Ouzbékistan et de cette région au tribunal ouïghour ?
Alors complètement par hasard en fait, j'avais commencé à ouvrir un compte Twitter et je cherchais un peu des comptes et des personnalités à suivre et je suis tombée sur un tweet qui était le suivant, tribunal ouïghour, Kilbinour Siddiq sur le point de témoigner. Donc j'ai été particulièrement interpellée par ce tweet, pourquoi ouïghour, pourquoi tribunal ? Qui est Kilbinour Siddiq et de quoi va-t-elle témoigner ? Donc j'ai cliqué sur le lien qui était proposé et je suis entrer directement dans cette salle de tribunal qui se tenait à Church House.
Vous pouvez vous dire un mot, ce Church House.
Church
House, c'est pas n'importe quel lieu.
C'est pas n'importe quel lieu parce que c'est un lieu évidemment qui a vu naître l'ONU en fait, la première réunion préparatoire à la création de l'ONU et puis en 46 la première réunion du Conseil de sécurité. Donc c'est un lieu qui est majestueux, c'est un très très beau lieu dans le cœur de Londres. Londres. La salle est absolument magnifique. Pour des audiences de cette nature, c'est quand même un cadre vraiment majestueux et solennel qui donne bien l'importance à accorder à ces paroles de témoins des faits.
C'est ça, c'est intéressant parce que l'espace, commençons par cela, l'espace confère de la dignité. Une dignité qui est au-delà de la politique, une dignité historique à ce qui va se passer.
Oui, oui, il y a vraiment un cadre propice au recueil et à l'écoute de paroles, de violences, de tortures, de.
On y reviendra malheureusement sur tout plus en détail. Et qui a eu l'idée de créer ce tribunal?
Alors en fait, les tribunaux citoyens, tribunaux d'opinion, sont en général créés par requête des victimes considérées comme telles. Et donc le tribunal ouïghour a été créé à partir d'une requête du Congrès mondial ouïghour, qui est donc une des grandes organisations de la diaspora ouïghour en exil, qui avait pris comme modèle, en fait, en 2019, le tribunal Chine. Il y a eu un tribunal Chine également présidé par Geoffrey Nice.
Ah oui, par le même ouais, avocat.
Avec Hamid Sabi aussi, donc qui travaillait en TODEM, sur la question du prélèvement.
Donc ils étaient déjà familiarisés avec la matière.
Ils sont familiarisés depuis longtemps avec cette matière de tribunal citoyen, puisque dès 2012, Hamid Sabi et Geoffrey Nice ont travaillé ensemble sur le tribunal Iran, qui est aussi un tribunal qui a été excessivement important pour révéler les crimes commis à la fin des années 80 dans les prisons iraniennes et l'exécution des opposants politiques.
Vous pouvez nous présenter un peu qui est Geoffrey Nice, bien connu des spécialistes de la justice pénale internationale?
Oui, donc c'est un juriste international qui a donc, entre autres, été procureur au sein du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui était le procureur sur le au procès de Slobodan Milosevic. Il en a fait d'autres aussi. Il a été procureur dans d'autres procès. Et en fait, il ne connaissait absolument pas ce qu'était un tribunal d'opinion. Il avait très peu entendu parler de Russell. Et quand on lui a proposé de travailler pour le tribunal Iran, il a considéré que c'était peut-être pas forcément une bonne idée.
C'est ça, parce que vous avez mentionné les tribunaux Russell, tribunal des peuples, qui est devenu ensuite, qui était quand même très marqué idéologiquement.
Oui, le tribunal Russell, oui, est très marqué idéologiquement, et ça, c'est un discours que à la fois Geoffrey Nice et Hamid Sabi tiennent une conscience, c'est d'éviter les biais de Russell et biais de la politisation de ces tribunaux citoyens. Donc il y a en quelque sorte une professionnalisation au fur et à mesure de ces tribunaux
citoyens. Alors on va y revenir, il y a une professionnalisation et c'est une autre époque. C'est une époque où on prend plus au sérieux la justice peut-être, quoi. Je ne sais pas.
Peut-être aussi, ça c'est à vous de me le dire.
Oui. En tout cas, c'est un tribunal citoyen qui est présidé par une personnalité du milieu qui va suivre, qui va mettre dans ce tribunal la procédure anglaise et ce respect scrupuleux des règles et cette manière d'interroger les témoins, Clé Drieux.
Oui, en même temps qu'il ne veut pas de contradictoire, parce qu'il considère que c'est un peu une forme de justice d'un autre temps, finalement. Considère pas.
Ah oui, c'est audacieux de dire ça.
Oui, c'est assez audacieux, mais que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'accéder à une forme de vérité historique, en fait.
Alors, on va y revenir parce que je crois que ça a à voir avec effectivement ce qui va constituer le cœur de travail de ce tribunal, qui sera les témoignages. Mais alors, avant d'en arriver à ces questions de témoignages, vous cliquez sur le lien et vous êtes prise. Vous êtes saisi, vous tombez dedans.
Oui, complètement, parce qu'en fait, donc j'ai manqué le discours d'ouverture de Geoffrey Nice et je rentre directement dans un moment très particulier qui est le moment où témoigne donc Kilby Nour Siddique, la première témoin des faits, qui va raconter très précisément ce qu'elle a vécu. Et elle a été enseignante de force dans deux camps de rééducation, un camp pour hommes et un camp pour femmes. Et donc elle décrit les conditions de travail, les conditions sanitaires désastreuses, les poux, les violences, les viols des femmes. Et puis en même temps, elle est ce qu'on appelle une témoin privilégiée parce que elle n'est pas détenue, elle est contrainte d'enseigner, mais elle n'est pas détenue. Elle a la possibilité de naviguer dans certains espaces du camp. Elle va pouvoir rentrer, par exemple, dans les salles de surveillance où elle va voir l'ensemble des caméras qui surveillent les détenus. Elle va pouvoir discuter avec les infirmières. Elle va pouvoir discuter avec certains policiers qui sont là. Et donc, elle a un regard qui est déjà un peu, qui n'est pas que celui de la victime détenue, mais d'un niveau supérieur.
Une sorte de témoin de contexte, on pourrait dire.
Je pense que c'est vraiment témoin des faits, parce qu'elle-même, est victime, en quelque sorte, à la fois de cette pression à enseigner. Elle n'a absolument aucune possibilité de refuser. Et puis, par ailleurs, elle est victime des politiques de stérilisation un peu plus tard et de ce qu'on appelle de la politique de faire famille, où pendant un certain laps de temps, des cadres communistes viennent vivre dans le foyer
dans la maison, quoi, dans l'appartement.
Oui, dans la maison. Ah, oui. Donc, elle est à la fois... Bon, participante, c'est compliqué à dire, mais elle est contrainte d'enseigner dans un camp en même temps qu'elle est victime de stérilisation et de cette politique de...
Et bien sûr, elle peut dire les consignes qu'elle a en tant qu'enseignante.
Elle peut dire les consignes qu'elle a en tant qu'enseignante, et puis elle a fait, donc avant de témoigner en fait, et ça j'ai découvert plus tard, elle a fait une très longue déposition de 22 pages, et Hamid Sabi, quand il parle de Kilbi Nursidit, il dit en fait on peut restreindre notre lecture à sa déclaration de témoin, on a quasiment le fonctionnement de l'ensemble du système. Donc c'était une témoin qui était très très importante, suivie par un autre témoin des faits aussi, qui est un ancien détenu d'origine kazakh, et qui est venu avec les chaînes qu'il avait rachetées en Turquie pour montrer le poids de... Le poids du système.
À tous les sens du terme.
À tous les sens du terme.
C'est ça. Oui. Et qui étaient des chaînes qui lui interdisaient de se tenir debout.
Qui lui interdisaient de se tenir debout. C'est-à-dire que les chevilles sont entravées, les poignets sont entravés. En plus, il y a une chaîne entre les pieds et les mains qui empêche la personne de se tenir vraiment debout et qu'elle est toujours obligée de plier. Donc, en fait, le premier jour d'audience qui a eu lieu le 4 juin 2021, la parole a été donnée exclusivement, à l'exception d'une personne, à des témoins des faits. Donc on rentre complètement dans ce système de violence, ce mécanisme de violence, par la parole de celles et ceux qui l'ont vécu.
C'est ça. Alors ça, c'est un choix, mais en même temps, le tribunal disposait de documents. Alors, vous parlez des 22 pages qu'il lire, mais il y avait aussi des documents. Et puis, alors, dites-nous, expliquez-nous, parce qu'il y a quelque chose qui est mentionné, mais je n'en sais pas tellement plus. Il y a des papiers top secrets qui sont arrivés entre les mains du tribunal via le New York Times.
Pas complètement. Alors il y a d'abord, avant la tenue du tribunal, il y a un travail d'un an et demi environ par une équipe de recherche qui a été aussi dirigée par quelqu'un qui vient du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, avec une équipe de jeunes chercheurs, d'étudiants en droit, donc il y a une trentaine de personnes, ou 25 personnes, en collaboration donc avec Hamid Sabi, qui sont chargés de réunir un certain nombre de preuves, de données. Donc il y a vraiment un travail de recherche en amont qui est très très important. Une sélection d'experts témoins, mais ça je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail. Et puis ces documents fuités, qui sont en fait les mêmes documents qui s'appellent les Xinjiang Papers, qui ont été révélés par le New York Times en 2019 et qui ont été remis au tribunal Ouïghour en septembre 2021. Et donc il y a une audience supplémentaire en novembre pour permettre à trois experts témoins d'authentifier sur le fond et la forme ces documents.
Qui d'où venait-il?
On ne sait pas. Enfin, en tout cas, c'est pas le tribunal Ouïghour et Geoffrey Nice, Hamid Sabi n'ont pas voulu révéler la personne, ce qui est quand même, un minimum.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quand même important. Il y a deux cas de figure. Soit ils tombent du ciel et c'est toujours un peu suspect, des documents qui tombent du ciel. Soit ils viennent par un témoin dont on ne veut pas révéler l'identité, ce qui est quand même bon. Ce qui est différent. Mais c'est vrai que dans un tribunal, on aime bien savoir d'où viennent les preuves.
Oui. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui n'est pas disponible au public, notamment.
Ah oui.
ces éléments-là. Donc, dans le jugement, dans les annexes, donc ça fait déjà un ensemble de documents, peut-être de 300 ou 400 pages. Il y a énormément de détails, mais ça, c'est pas révélé.
Ce qui est intéressant, c'est que on voit dans cette rupture d'époque par rapport au tribunal Russell dont vous parliez, c'est la légitimité par la professionnalisation et par une professionnalisation qui va passer par les mêmes professionnels que ceux qui ont été à la Cour pénale internationale ou au TPY en l'occurrence, qui vont amener leur savoir-faire, leur professionnalisme au service de la légitimité, d'une forme de neutralité par la professionnalisation, Chloé Drieu.
C'est assez surprenant d'ailleurs, me semble-t-il, et je pense qu'il y a vous me le direz peut-être, mais un certain nombre de juristes qui cloisonneraient beaucoup plus les différentes formes de justice, mais pour Hamid Sabi et Geoffrey Nice, de faire partie du barreau d'Angleterre, de faire partie de grandes juridictions, et en même temps de s'investir dans des tribunaux citoyens. Il n'y a pas de contradiction. Et les tribunaux citoyens sont là aussi pour lutter contre l'impunité, puisque la Chine, qui a signé la Convention de 48, a mis une réserve à l'article 9. Donc elle ne peut pas être traduite en justice. Donc c'est Hamid Sabi, Geoffrey Nice et d'autres considère qu'il y a quand même un grave problème de violation des droits de l'homme et qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, résoudre
faire quelque chose. Bien sûr, faire quelque chose. Alors, ils sont réunis en combien de sessions? Ça a duré combien de temps, son travail?
4 jours en juin, 4 en septembre. Donc ça, j'ai pu aller en septembre à Londres pour assister aux audiences. Une journée en ligne en novembre pour examiner les documents fuités. Et puis, le rendu du jugement le 9 décembre. Donc, en gros, il y a 90 heures d'audience prononcée de jugement qui sont disponibles en ligne sur une chaîne
YouTube. Et qui le sont toujours. Oui, c'est ça. Donc, les auditeurs, s'ils le veulent, pourront s'y reporter. Oui. On y reviendra. Parce que partie de sa raison d'être. De pouvoir mettre à disposition autant de documents.
Et de publiciser, en fait. Oui, l'objectif de ces tribunaux, c'est de publiciser.
Bien sûr. Alors, qui étaient les membres du jury?
Alors, les membres du jury, il y a 9 personnes. Il y a des profils assez similaires. Il y a un certain nombre d'anthropologues, de professeurs des universités. Ils sont tous résidents en Angleterre, parce que c'était le moment du Covid. Et donc, il fallait pouvoir être sûr de...
Donc, c'est pas très international,
Ça n'a pas été très international, celui-là. Mais c'est pour des raisons des pandémies de Covid, en fait.
C'est ça.
Essentiellement. Parce que d'autres tribunaux d'opinion sur lesquels on travaillait, Geoffrey Nice et Hamid Sabi, étaient beaucoup plus internationaux.
Donc là, c'est bon, faute de mieux. Et alors, ce sont des jurys. Quel est leur rôle? Les jurys, ils écoutent, ils peuvent poser des questions
Alors, ils écoutent, ils ont préparé ils se sont préparés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup lu. Pendant les audiences, en fait, ils posent des questions. Il y a d'abord il y a 3 conseillers juridiques avec Hamid Sabi à leur tête, qui vont présenter la témoin, expert témoin, témoin des faits, qui vont poser les premières questions.
Vous dites expert témoin, témoin des faits. L'expert témoin, c'est une catégorie de common law. L'expert témoin, c'est celui qui vient témoigner sur un point général.
C'est pas si général que ça. Mais il va donner en fait des éléments pour contextualiser le témoignage, les faits qui ont été apportés par ces témoins des faits.
C'est ça. Donc on peut leur poser des questions à tous ces témoins.
On peut leur poser des questions et surtout la majeure partie du temps d'audience, puisque c'est une heure pour chaque témoin, est réservée aux questions. C'est-à-dire qu'on épargne aux témoins des faits de se remémorer trop longtemps ce qu'elle ou il a vécu. Donc pendant 10 minutes, il y a un petit discours liminaire par la témoin ou le témoin. Et puis ensuite, la majeure partie du temps est consacrée aux questions.
C'est intéressant ce point-là, parce que on cherche à éviter la revictimisation, on cherche à éviter la brutalité finalement d'une procédure classique, et notamment des procédures de common law où il y a la cross-examination, des questions de part et d'autre, un feu roulant de questions qui est souvent extrêmement pénible pour les victimes. Là, il y a cette attention particulière, on pourrait dire, Chloé Drieux.
Oui, il y a une attention, il y a une bienveillance qui est vraiment orchestrée, qui est organisée. Et puis surtout, donc ça c'est une interview que j'avais faite avec Hamid Sabi, la question s'était posée d'un amicus curiae, c'est-à-dire de quelqu'un qui pourrait représenter la Chine. Et puis en fait, d'abord la Chine n'a jamais répondu à toutes les invitations. Oui. Et puis surtout, Hamid Sabi dit, mais finalement, ça n'aurait pas contribué à la connaissance.
C'est intéressant, pourquoi ?
Parce que donner la parole à des avocats que l'on aurait choisis pour malmener une victime qui est déjà excessivement traumatisée, puisque les expériences de torture, de viol, de torture blanche ont eu lieu de torture psychologique, 2017, 2018, 2019, c'est très très récent. Et donc Hamid Sabi dit, mais on aurait perdu l'avantage de la victime pour un avantage légalistique, légal.
Oui, légal. Mais c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit très bien que dans ce tribunal d'emblée, elle fait plus que de nécessité vertu, elle choisit une certaine forme de justice avec une certaine manière de traiter les témoins, Chloé Drieux.
Oui, puis elle fait avec ce qu'elle a, c'est-à-dire que si la Chine ne répond pas, la Chine ne répond pas, et donc on fait sans la Chine, mais on va pas... Enfin, c'est ce que disait Hamid Sabi, on va pas faire un effort supplémentaire pour essayer de trouver quelqu'un qui va malmener, qui pourrait tenir... interroger de façon excessivement violente et brutale pendant 4-5 heures, ça sert à rien, quoi, en fait. C'est ce qu'ils ont considéré.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur le tribunal ouïghour en compagnie de Chloé Drieux, qui est une historienne, chercheuse au CNRS et spécialiste de cette région, qui a choisi de nous faire entendre cet air Holly is the True Light de William Harris, qui était en l'occurrence interprété par les Cambridge Singers sous la direction de John Rutter. Pourquoi ce choix, Chloé Drieux ?
Alors j'ai hésité beaucoup parce que j'avais pensé à Shostakovich aussi, puisque vous aviez passé Shostakovich il n'y a pas très longtemps, et je pensais à la 5e symphonie, notamment, de 37, qui donne une image absolument saisissante de cette vague d'arrestations et qui pourrait correspondre à ce qui se passe en 2016, surtout 2017, 2018, 2019 en région ouïghour.
Et là, vous avez choisi de nous faire entendre un air Sainte et la vraie lumière. Alors,
je vais vous dire, oui, donc Sainte et la vraie lumière est magnifique. Elle fait resplendir ceux qui ont souffert dans la chaleur du combat de Christ. Ils héritent d'une demeure éternelle, une demeure d'éternelle splendeur où ils se réjouissent dans l'allégresse à jamais. Et ça, en fait, quand on est dans Church House, donc la salle est ronde et il y a une sorte de coupole. Et en fait, tout autour de la coupole est cette inscription, Holy the Truth. Et donc, quand j'étais dans le tribunal, je me suis dit, bon, il faut que je note. Donc, j'ai commencé à noter, puis après, j'ai oublié. Parce que c'est toujours intéressant de faire un peu une ethnographie des lieux.
Bien sûr.
Et donc, voilà. Et donc, après, j'ai cherché un peu sur Internet, parce que je n'avais pas réussi à noter, en fait, l'ensemble. J'étais prise par d'autres choses. Et j'ai découvert que la signification. Ceci étant, je ne veux pas faire d'un espace sacralisé ce tribunal ouïghour. Je pense que ça reste un espace qui est excessivement séculier.
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est cette recherche de légitimité. C'est ce transfert de légitimité. On voit que depuis le début, il y a un transfert de légitimité par la personnalité tout à fait respectée de ces deux personnages, par le professionnalisme des assistants, par ce lieu tout à fait singulier, et maintenant par cette phrase très belle, effectivement un peu décalée par rapport aux Ouïghours, mais qui exprime bien dans le fond ce que le tribunal cherchait à faire, Claude Rieu.
Oui, et puis il y a vraiment ce cadre solennel et ce cadre bienveillant et ce cadre d'accueil. C'est vraiment un espace excessivement propice, comme j'ai dit tout à l'heure, au recueil de la parole. Et ça participe du cadre solennel et majestueux qu'on va redonner à ces victimes pour s'exprimer.
Parce qu'elles en ont besoin. Et donc, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ces victimes, parce que le niveau d'atrocité, de violence directe ou indirecte, est terrible dans cette région ouïghour. Et les témoins ne sont pas si nombreux, Chloé Drieu.
Non, il y a très peu de témoins qui acceptent publiquement de parler. Alors en Europe, il y en a une quinzaine. En France, il n'y en a que deux. Mais... aux États-Unis, il y en a un petit peu plus. Donc c'est un poids énorme sur les épaules de ces victimes et de ces témoins pour expliquer ce qui s'est passé, sachant aussi que le témoignage a un coût absolument énorme parce qu'il y a...
un risque pour eux.
Un risque et un coût énorme. Oui.
C'est ça. À tel point que vous avez une expression pour parler de ces témoignages, et je crois que c'est ça qui donne toute cette dimension à ce tribunal aussi. Vous parlez, je crois, de sacrifice du témoin.
Oui, sacrifice testimonial. C'est vrai qu'il y a, quand on écoute les témoins, on sent qu'il y a quelque chose à la fois de l'ordre du sacrifice et puis du devoir moral. Parce que beaucoup, notamment des femmes qui l'expriment clairement durant les audiences, témoignent pour celles qui ne peuvent pas témoigner, qui sont restées internées en région ouïghour et qui n'ont pas la chance de pouvoir parler. Sachant que l'essentiel des femmes qui peuvent sortir sont des femmes qui vont être, qui sont mariées à des hommes étrangers, soit égyptiens, soit pakistanais. Et donc elles ont, au sortir de détention, la possibilité de sortir de Chine et de témoigner. Ou alors, une grande partie des témoins sont des Kazakhs, en fait, puisque la population en région ouïghour est aussi composée de Kazakhs, et il y a beaucoup d'échanges avec le Kazakhstan. Donc, le poids et le coût du témoignage est vraiment très important. Il y a une témoin aussi qui dit qu'elle témoigne pour les morts, pour les 9 femmes qu'elle a vues décédées pendant sa détention. Alors, c'est son enfant qui est décédé aussi.
C'est ça. C'est très important parce que ça montre finalement ces deux facettes du témoin. On est témoin des faits qu'elles vont révéler, et en même temps témoin de l'absolu. Témoin de l'absolu, on pourrait dire, ça évoquait le terme de martyr, hein, dans le sens où elles mettent leur vie en jeu pour faire savoir, étant entendu que elles sont en insécurité, y compris dans les pays occidentaux.
Elle reste en insécurité dans les pays occidentaux. Il y en a l'une d'elles qui a dû déménager 9 fois, parce qu'elle était harcelée.
Harcelée par les services chinois.
Harcelée par les services chinois, oui.
C'est ça.
Non, c'est une situation qui est très très dure à vivre pour les témoins.
Les auditeurs l'auront compris, qui renforce la nature de ce tribunal qui est très différent des tribunaux d'opinion des années 60 auxquels participaient Russell ou Sartre, par exemple. C'est-à-dire que là, les victimes sont au centre. C'est un tribunal qui met les victimes au centre.
Les victimes sont en centre, c'est ce que dit notamment Hamid Sabi. Sans témoin des faits, il n'y a pas de tribunal citoyen, c'est impossible. Et en fait, elles sont les victimes, enfin les témoins des faits, plus que victimes, les témoins des faits sont là parce que ils et elles ont un savoir expérientiel absolument incomparable. En fait, ce sont ces témoins qui vont témoigner, qui assènent le premier coup au système de violence, et c'est à partir de leur savoir à eux que va se construire cet échafaudage de justice avec la convocation d'experts témoins.
C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance de leur part que de prendre le risque. Il y a même un ancien policier chinois qui est venu témoigner.
Alors résistance, je sais pas. En fait, c'est vraiment de l'ordre du devoir moral et de considérer que l'injustice dont ils et elles ont été victimes doit être connue en fait. Donc de résistance, il y a beaucoup de témoignages qui sont assez peu politiques en fait, qui sont apolitiques. Ils veulent pas dénoncer spécifiquement la Chine ou des personnalités en particulier, mais elle dénonce ce qui leur est arrivé.
Ce qui leur est arrivé et qui est assez singulier, Chloé Drieux, qui est assez singulier parce que c'est effectivement un système un système qui est, comment dirais-je, qui passe par de multiples canaux, par de multiples lieux, par de multiples moyens. Pour arriver à alors les expressions sont glaçantes quoi, hein, c'est pour à une rationalisation de la structure de la population, traduction du chinois, une optimisation de la population, une dilution de l'élément ethnique. Là on retrouve d'ailleurs le même argument que les autorités chinoises ont employé au Tibet, c'est-à-dire que ce qui est visé c'est effectivement la nature, l'identité d'un peuple en tant que peuple, son ethnicité.
Oui, tout à fait. Et les témoins donc vont expliquer de façon. En fait, ils expliquent la base du crime, c'est-à-dire à partir de leur savoir à eux va se construire ce savoir de ces politiques multiples, à la fois d'ingénierie démographique, de transfert de population, de déplacement de population, d'internement de masse dans des structures qui sont à la fois des camps de rééducation donc extrajudiciaires, des centres de détention et des prisons qui sont donc au sein du système judiciaire, des pratiques de surveillance extrême avec la reconnaissance faciale.
Voilà, la présence, que vous le disiez, par exemple, la présence d'un policier au sein de la famille, qui vit avec la famille. Les disparitions aussi, on y reviendra, mais il y a un élément, c'est ça qui est intéressant, on est en 2021, il y a un élément qui est très important, qui va être analysé au cours de ce tribunal, l'élément aérosatellitaire. Donc, il y a des images satellites qui vont permettre d'identifier alors un nombre très grand de centres de traitement de la population, de centres de détention, de centres de travail forcé aussi, Chloé Drieux.
Oui, donc l'image satellite a eu un rôle très important. Il y a, en fait, c'est l'un des moyens les plus probants, je dirais, de compréhension de cette extension géographique, de cette construction.
C'est véritablement un archipel. Alors, on parlait de l'archipel du Goulag. Là, c'est véritablement un archipel du Goulag chinois, quoi.
Ça permet donc en source ouverte de renseigner la construction. Alors il y a des rapports qui sont très intéressants de l'Agence de renseignement géospatial américaine qui a travaillé, elle, pour comprendre l'extension de ces structures d'internement à partir d'images satellites de nuit. Parce que c'est à partir de la nuit que l'on voit que ces structures se développent, se construisent à partir du moment où il y a de la luminescence, il y a une activité humaine. Et c'est un système qui avait été, enfin une méthodologie qui avait été mise au point en Irak et en Syrie pour comprendre l'extension de Daesh, par exemple. Oui. Donc c'est cette méthode-là qui a été appliquée ensuite à la région ouïghour et à ses structures d'internement. Et de jour, on vérifie ce qu'on a compris la nuit, avec corroboration, donc avec d'autres sources, notamment les appels d'offres qui sont importantes pour savoir est-ce qu'il y a eu des appels d'offres de barbelés, de clôtures électrifiées, etc., qui ont été publiés. Donc il y a ces différentes institutions, souvent des think tanks, c'est du renseignement géospatial, qui vont tracer très précisément la construction de ces camps. En même temps qu'il y a aussi d'autres initiatives, telles que la Xinjiang Victims Database, qui est une base de données, qui elle est une base de données par entrée individuelle, tenue par quelqu'un qui s'appelle Jin Bunin, depuis 2017, et qui a répertorié à ce jour 83 000 victimes, soit anciens détenus, soit détenus encore à l'heure actuelle, avec une quantité absolument astronomique de détails, d'informations. C'est vraiment une base de données qui...
Alors c'est intéressant parce que finalement, on sait pas mal de choses par ces nouveaux moyens techniques, par ces banques de données qui sont très très de plus en plus fournies, et en même temps pour que ce tribunal fasse son travail de justice, il y a ce moment de suspension qui est produit par un témoin en chair en os qu'on voit et qui raconte ce qu'il vit, ce qu'il a vécu.
Ce qu'il a vécu et ce à quoi il a survécu. Je pense que c'est aussi quelque chose de très saisissant de voir à la fois évidemment l'émotion qui les saisit, mais surtout la dignité en fait de leur témoignage. Ils sont là pour rapporter ce qu'ils ont vécu dans leur chair, notamment parce que ceux qui ont été torturés, il y a très peu de traces de torture, si ce n'est que par la victime. Et c'est quelque chose d'excessivement saisissant. Et c'est d'autant plus saisissant que les types de questionnement, alors pas d'interrogatoire parce que le terme n'est pas le bon, mais les questions qui sont posées à ces témoins des faits sont excessivement directes. Et la témoin des faits, n'est là que parce qu'elle a vécu un moment de violence. En quelque sorte, sa vie ne commence qu'à partir du moment où elle a été arrêtée et se termine à partir du moment où elle a été libérée. Et les conseillers juridiques ou les membres du tribunal vont les interroger de façon excessivement directe, ce qui est aussi assez déstabilisant quand on n'a pas forcément l'habitude des espaces judiciaires.
Sur la qualification, le tribunal parle de génocide. On va revenir sur les éléments qui lui permettent de poser une telle affirmation. Il y a aussi quand même un élément parmi tant d'horreurs, la disparition des corps qui a pu être établie.
Ça, on sait pas trop. Donc, il y a un témoin qui s'appelle Ethan Gutman. Son témoignage n'a pas été retenu par le tribunal parce qu'il a considéré que c'était trop un travail en cours qui a parlé de ces... il travaille spécifiquement sur le prélèvement forcé d'organes. Il a évoqué des crématoires... Le tribunal n'a pas retenu.
Et ça fait ça aussi, c'est un gage
de alarmant,
crédibilité.
En fait. Pardon. En fait, c'est alarmant. Ce sont des données, même si elles n'ont pas été en quelque sorte consolidées par le tribunal ou acceptées par le tribunal. C'est quand même des alarmes qui sont excessivement fortes.
Qui laissent, alors puisque c'est pas établi, on va pas en parler plus longtemps que ça. Mais quand même, il y aurait un tourisme de trafic d'organes.
C'est ce qu'il dit. Oui, le tourisme de la transplantation. Donc en fait, lui, il a donc il travaille pour le mémorial des victimes du communisme à Washington. Il a un agenda politique très anti-chinois.
Oui, c'est ça. Il y a un organisme très marqué quand même.
Oui, très marqué anti-chinois. Donc ça, c'est évidemment très très clair. Et lui, il part en fait d'une sorte de raisonnement par inférence, c'est-à-dire qu'il considère que dans chaque région de Chine, il y a une clinique de transplantation et que si parce qu'il a, il se base sur des données de peines de mort et d'accidents de la route et que en fonction du nombre de peines de mort et d'accidents de la route, ça ne peut pas pourvoir en organes par rapport au nombre de transplantations qui sont effectuées. Bon, voilà, c'est très très difficile. C'est un sujet qui est excessivement, excessivement difficile et excessivement troublant aussi, en fait.
Altay korla ve kuca ana yurdum sen bu dünya değil en güzel makam kuya patmaz bu yaş tek çeksiz mihir gel buğa
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur ce tribunal très insolite pour établir les crimes commis dans le pays ouïghour par les autorités chinoises, en compagnie de Chloé Drieux, qui est chercheuse et qui travaille sur cette question et qui a choisi de nous faire entendre, alors en deuxième choix, une chanson en langue ouïghour par un chanteur, Ablavanaout Ayoub. Je ne garantis pas l'accent, et une chanson qui s'appelle Ana Yurtelen. Elle a une histoire, cette chanson, quand même, Chloé Drieux.
Oui, donc elle parle de la terre natale, du fait d'appartenir à sa terre natale. Et Ablajan a été arrêté en 2018, a priori condamné pour 10 ans de prison. C'est une information relativement récente, mais qui n'a pas pu être corroborée par d'autres sources, pour incitation au séparatisme, par cette chanson et par d'autres.
Donc il est toujours en prison.
Il est toujours en prison, on n'a pas de nouvelles.
Il n'y a pas de nouvelles, on ne sait pas où il est. Voilà. Parce que elle partir en prison quand on est ouïghour, c'est plus risqué, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, mais qui étaient un peu exactement comme sous le stalinisme, que vous connaissez bien d'ailleurs, hein, Chloé Drieux, c'est-à-dire sous le stalinisme, on ne savait pas où étaient les prisonniers, les familles ne pouvaient pas le savoir. Et on ne savait pas notamment s'il était mort ou vivant, c'est un peu la même situation dans le pays ouïghour.
Oui, à l'exception peut-être qu'il y a des documents fuités, donc ils fuitent assez régulièrement, par exemple avec les Xinjiang Police Files ou un certain nombre de listes.
Mais alors, qui fait fuiter?
Bah, moi, j'en sais rien, en fait.
Ouais, mais n'empêche qu'il y a des policiers, il y a des policiers chinois qui ont parlé.
Il y a un policier chinois qui est un personnage, enfin, qui a témoigné au tribunal ouïghour, qui lui se considérait comme un bon patriote et voyait, enfin, c'est le discours qu'il tient, hein, que la façon dont la Chine, comment dire, réprimer les Ouïghours ne faisait pas partie des fonctions qu'il avait imaginées. Donc en fait, il s'est retrouvé en Allemagne, réfugié politique. Voilà, il a travaillé en région ouïghour et il explique notamment, par exemple, que les tortures, la torture est interdite en Chine et il y a des caméras évidemment partout, sauf dans les salles où on va les torturer. Donc il a pu aussi décrire lui-même le camp et le système policier de l'intérieur. Mais par contre, le tribunal n'a pas retenu son...
Parce qu'il y a un trop grand écart entre sa déposition écrite et ce qu'il disait ou ne disait pas. Alors,
voilà, et que en fait, donc Geoffrey Nice et son équipe a considéré que la Chine n'aurait pas eu le temps de réagir, n'a pas eu le temps de réagir à ces déclarations.
Alors qu'elle a réagi à rien du tout.
Elle a réagi parce qu'elle a organisé un certain nombre de contre-conférences. Elle a pris des sanctions contre le tribunal ouïghour, contre Geoffrey Nice, contre une chercheuse qui s'appelle Joanne Finlay. Donc elle a sanctionné. Elle n'a pas participé, mais elle a sanctionné. Elle a sanctionné un certain nombre de personnalités politiques en Grande-Bretagne. Donc elle a agi, elle a fait un certain nombre de conférences ou alors elle a diffusé des vidéos. Il y a une vidéo comme ça, d'insultes en fait de la fille d'une des témoins qui insulte sa mère pour parce que c'est une menteuse, parce qu'elle n'a pas le droit de raconter des choses comme ça. C'est excessivement douloureux pour les témoins.
Là aussi, on retrouve quand même des méthodes staliniennes, pour le coup, Chloé de retourner une fille contre sa mère, par exemple. C'est ce qu'on voyait aussi, typique du totalitarisme, quoi.
Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement rentrée, en fait, dans cette enceinte du tribunal, c'est que ça faisait écho à un certain nombre de choses que j'avais perçues sur le stalinisme, même si j'avais pas travaillé sur le goulag spécifiquement, j'avais plutôt travaillé sur les violences symboliques dans les années 20 et 30 en Ouzbékistan, mais on retrouve des logiques similaires.
Alors, il y a des logiques similaires, et puis en même temps, il y a quand même cette question, alors cette question qui est proprement du génocide, qui est le fait de vouloir faire baisser la démographie par tous les moyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a été établi par ce tribunal et qui a été un des intérêts des travaux de l'ensemble de ces travaux et notamment de ceux qui ont été établis par le tribunal, c'est-à-dire de donner une nouvelle dimension, une nouvelle coloration à l'idée de génocide, Chloé Drieux.
Alors oui, parce que, enfin, à ma connaissance, les génocides jusqu'alors que l'on connaît sont des génocides sur meurtre de masse, l'acte de meurtre de
masse. Disparition des corps sur une grande échelle, oui.
Ouais. Et là, donc le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves de meurtre, ou même en crime contre l'humanité, d'extermination ou de meurtre. Donc ils ont considéré que le seul acte prohibé qui était, valable dans ce cas, c'était l'entrave aux naissances d'une partie substantielle du groupe, et à partir des taux de natalité et de la baisse très vive de ces taux de natalité, le rapport de l'ONU que Bachelet avait publié, que Madame Bachelet avait publié peut-être 3-4 minutes avant la fin de son mandat, parlait de sharp decline. Donc quand on voit les statistiques, on voit effectivement qu'il y a une chute très vive de ces taux de natalité, notamment dans les préfectures du Sud. Et c'est là-dessus, donc sur ces statistiques de natalité, que le tribunal a considéré qu'il y avait génocide pour entrave aux naissances, et notamment destruction biologique du groupe. Non pas destruction physique, mais destruction biologique.
Le génocide se mesurant en vie non advenue.
Se mesurant en vie non advenue, et donc ce sont les travaux de Adrian Zenz et de Nathan Russer, donc qui travaillent pour ASPI, un think tank en Australie, qui a retenu leur attention, et notamment un des chiffres importants, c'est de dire donc en 2040, la réduction de la population, enfin il y aurait une réduction de la population de 2,6 à 4,6 millions, soit 20 à 34% de la population ouïghour qui aurait dû vivre. Donc c'est sûr, ils ont considéré que cette prédiction, même si c'était cette prédiction à une petite vingtaine d'années était recevable par le tribunal.
Sur le côté qu'il y a quand même aussi des déplacements de population dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a au moins 300 000 Ouïghours qui ont été déplacés de force vers la Chine du centre, la Chine centrale, et en même temps il y a eu plus de 300 000 Han, donc des Chinois de l'ethnie Han ultra-majoritaire, qui ont été implantés dans un pays ouïghour. Donc il y a cette volonté de rectifier le pourcentage ethnique, l'équilibre ethnique dans la région ouïghour, Chloé Drieux.
Oui, et puis il y a aussi un autre chiffre, alors j'ai pas encore vraiment travaillé sur la méthodologie et la façon dont ce chiffre a été calculé, mais de 800 000 enfants qui sont séparés, 800 000 enfants ouïghours qui sont séparés de leurs parents.
Ont été retirés pour être sinisés,
pour être soit parce que les parents ont été internés, soit pour les assimiler alors dans des orphelinats ou des internats.
Oui, alors ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays totalitaires, c'était le cas des enfants en Norvège qui étaient germanisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on retrouve en Argentine, c'est-à-dire ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le franquisme, c'est-à-dire on touche à la composition ethnique et culturelle d'un peuple en prenant les enfants.
Oui. Et ça, c'est vraiment... c'est une forme d'acculturation absolument terrible. Parce que quand on prend des enfants qui sont très jeunes, ils sont très vite assimilés au bout de quelques années. Alors que là, c'était intéressant, parce que Geoffrey Nye se posait souvent la question, mais est-ce que le lavage de cerveau, ça marche? Donc c'était une question assez systématique qu'il posait. Et en fait, en général, les anciens détenus ou les conjoints d'anciens détenus disent... c'est difficile de laver complètement le cerveau de quelqu'un qui a déjà 25 ou 30 ans, donc a déjà une vie, une culture, des références culturelles. Par contre, sur les enfants, c'est évidemment...
Bien sûr.
C'est très, très...
Ce qu'on fait aussi Daesh avec les Yézidis, c'est-à-dire que c'est, maintenant, on commence à avoir une documentation assez fournie, malheureusement, de cette technique de nettoyage ethnique qui ne passe pas par le meurtre. Et c'est encore une des caractéristiques de cette... De ce génocide, qui est qualifié comme un génocide, c'est de passer par des méthodes qui sont moins visibles que la déportation de masse et le crime, Claude Drieux.
Et le système d'internement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait pouvoir faire des enquêtes de terrain.
Oui, ce sera difficile.
Impossible, mais, oui. Mais bon, néanmoins, je trouve que l'enceinte... parajudiciaire, cette justice alternative est quand même une instance où on arrive à avoir une radiographie complète d'un état criminel, je trouve. C'est quelque chose qui est assez frappant. C'est quelque chose que disait aussi Denis Salas pour V13, où on a l'impression de voir exactement comment fonctionne un état de violence. C'est assez, pour une historienne aussi, c'est assez étrange d'imaginer qu'en 90 heures, on a à peu près tout le panorama de la violence, à la fois les faits sur les victimes, et puis toute la chaîne de commande, les décisions, les politiques. C'est assez... En si peu de temps, nous, historiens, historiennes, on n'arrive jamais à recueillir...
Et vous trouvez que ça a été productif d'une connaissance de synthèse qui permet à l'opinion, aux historiens, à tous ceux que cela intéresse, de se reporter sur les témoignages, se reporter sur le jugement qui est extrêmement détaillé. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant dans cette forme de justice, c'est qu'elle se tient par l'évidence des faits, beaucoup plus que par l'incrimination d'une politique, de responsabilité dans cette politique. Alors on parle bien sûr du gouverneur, sinistre réputation dans le pays ouïghour, qui vient du Tibet, où il a eu l'occasion de fourbir ses armes. Mais en dehors de ça, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté d'imputation personnalisée, de savoir qui a fait quoi. C'était pas le propos de ce tribunal pour les Ouïghours.
Non, parce que le tribunal s'exprime sur une responsabilité d'État, et pas sur des responsabilités individuelles, ce qui fait évidemment une grande différence.
C'est tout à fait à rebours de la justice pénale internationale, qui se limite toujours à des personnes dénommées.
Oui, non, là, c'est vraiment la responsabilité de l'État. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça correspond aussi un peu aux démarches des historiens sur les violences de masse. C'est-à-dire il faut considérer la totalité du crime et pas spécialement... Enfin, on peut travailler sur des individus dans la commission du crime, mais d'avoir la représentation de cette totalité de la violence d'État planifiée et de ses mécanismes, c'est quelque chose d'excessivement intéressant et de très proche de ce que l'on fait.
C'est ça. Alors c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une sorte de convergence. Alors là, ça marque véritablement une époque dans l'histoire des juridictions internationales, parce que il y a eu cette tension qu'on connaît notamment en France entre les historiens et les juges en disant on fait de l'histoire, on fait pas de justice et on veut pas participer à l'œuvre de justice. Bon, après Henri Rousseau est revenu sur ça, sur cette position. Mais là, on voit une sorte de convergence entre un travail historien, un travail comme on a pu le voir très soigneux, par des experts, par des bases de données, par des images aérosatellitaires, par des comparaisons démographiques, par des projections démographiques. Donc tout un travail qui parle en lui-même en quelque sorte. Le crime et la description du crime est en soi incriminant, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, puis un des points communs aussi, c'est qu'il n'y a pas de finalité de punition, en fait,
oui,
ni de recommandation.
C'est ça.
Donc c'est juste, c'est produire, et Geoffrey Nice le dit, je pense que c'est dans le jugement, c'est combler un manque de connaissances. Alors pas de connaissances, parce qu'il y a déjà beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la région, c'est pas vraiment... Mais à travers le filtre de la question génocide et de la Convention de 48.
Oui, alors... C'est très important parce que pour le coup c'est là que s'arrête le travail d'historien. Il peut pas qualifier juridiquement, c'est pas son rôle. Bien sûr, il se sert de catégories juridiques, mais c'est pas son objectif. Alors là, l'intérêt de ce tribunal ouïghour, c'est que il a opéré et c'est s'appuyer sur un travail historien et sur des données des experts. En proposant une qualification, et c'est là la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a une qualification qui est très soigneuse. Il a écarté les transplantations d'organes parce que c'est pas établi, et puis on sait que c'est une question qui est une usine à fantasmes aussi un peu. Il n'a pas dit. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous en disiez un mot, Claude Drieux. Il a dit ce qu'on a pu établir, c'est une politique partielle.
Oui, c'est la partie substantielle du groupe. En fait, ils ont... Alors, il y a eu une sorte de débat entre des juristes, parce qu'il y a d'autres opinions juridiques qui se sont intéressées à ces sources et à viser de qualification juridique des atrocités et qui ont conclu au génocide, qui sont, par exemple, New Lines Institute, qui a considéré qu'il y avait génocide selon les 5 actes prohibés de la Convention. Il y a une opinion juridique qui est très intéressante du Sussex, qui aussi a considéré qu'il y avait génocide à la lumière des sources disponibles. Il y a eu une discussion intéressante entre ceux de New Lines Institute, qui est...
Alors, qu'est-ce que c'est que le New Lines Institute?
C'est aussi un institut qui s'intéresse aux violations massives de droits de l'homme et qui produit un certain nombre de rapports et qui a produit un rapport sur la violation de la Convention de 48 en région ouïghour, mais qui considère que puisque c'est une responsabilité collective, il suffit d'avoir une preuve claire et convaincante, alors que Geoffrey Nice a considéré qu'il fallait un niveau de preuve absolument irréfutable qui est le preuve au-delà de tout doute raisonnable. Donc il y a une discussion. C'est vrai que moi au début, je pensais pas des éléments qui sont habituels dans mon travail.
C'est ça. Alors, il y a un dernier point dont on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'en fait, ces affaires-là nous concernent aussi, nous autres, ici, en Occident, du fait de la mondialisation. Et le travail forcé, on n'en a pas beaucoup parlé, Chloé Drieux, le travail forcé.
Alors, moi, je ne suis pas des plus, plus professionnels sur ces questions.
Mais on en a quand même beaucoup parlé, et on n'en sait pas non plus grand-chose, si ce n'est qu'il y a quand même des vêtements qui sont fabriqués par le travail forcé, pour ne prendre qu'un exemple.
Alors, il y a une expert témoin qui s'appelle Laura Murphy, qui travaille, qui est une anthropologue de l'esclavage, et qui, elle, a travaillé sur le travail forcé, et notamment les usines qui sont accolées à des camps de rééducation ou centres de détention, ou même prison, je crois, et qui utilisent les détenus pour en main-d'œuvre. Donc, c'est pas quelque chose que le tribunal a beaucoup travaillé. Il y a eu une personne seulement qui a fait état à sa sortie de camp de rééducation. Elle était obligée de travailler en usine. Donc je suis pas la plus...
Je dis ça pour sensibiliser les auditeurs qui se sont rendus compte de la gravité très préoccupante de la situation des Ouïghours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a eu ce tribunal. S'informer, Chloé Drieux, se prendre conscience, profiter de cette... profiter de toute cette production de connaissances, aller regarder des images du procès pour se rendre compte soi-même.
Oui, et puis en fait, on se rend compte que les produits chinois susceptibles d'avoir profité de main-d'œuvre et de travail forcé sont excessivement nombreux. C'est le coton, donc par exemple la question de Shein, qui utilise du travail forcé, les panneaux solaires, Volkswagen, enfin un très grand nombre de... Les produits peuvent être issus du travail forcé. Il y a une législation en cours, notamment au Parlement européen.
au Parlement européen là-dessus. Écoutez, merci beaucoup Chloé Drieu, merci pour toutes ces informations, merci pour avoir témoigné de ce tribunal. Les auditeurs pourront trouver toutes les références sur le site de l'émission, les liens aussi pour pouvoir regarder ces séances et s'imprégner de cette justice nouvelle, on peut le dire. Esprit de justice est terminé. À la technique, il y avait Élise Leu, à la réalisation Jean-Christophe Francis, et à la préparation Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.